10h42 minutes. Bienvenue dans Trudeau Landry. Continuez de nous écrire 25226 via texto. Toujours bien le fun de vous lire. 1-877-670-9330. Bon vendredi, bon début de week-end à tout le monde. On va parler un peu de politique américaine. Tu sais, je sens, Jonathan, que, tu sais, on n'est plus, tu sais, rappelle-toi, le Lady Gaga, l'hymne national, là, devant le Capitole, puis la grande cérémonie.
La période de grâce.
L'engouement, la période de grâce, la petite lune de miel. Je pense qu'on n'est plus là, là, avec Joe Biden aux États-Unis, qui se retrouve à gérer bien des problèmes. Et dans les dernières heures, il a fait son premier point de presse. Ça faisait longtemps que les journalistes voulaient lui poser directement des questions, donc ça a été fait. Belle occasion pour parler avec notre chroniqueur expert en politique américaine, chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand, Raphaël Jacob. Salut, Raph!
Salut, messieurs!
Et comment t'as trouvé M. Biden, qui là, je pense que c'est un peu le début un peu de l'adversité, peut-être la première fois qu'il se retrouve avec toutes sortes de problèmes à gérer aux États-Unis. Là.
Ben, il y avait des bonnes nouvelles, je pense, à annoncer. C'est la première chose, je pense, qui doit être dite. Là. C'est-à-dire qu'il a commencé sur le sujet de la vaccination. Mm-hmm. Puis, c'est pas la première fois que vous et moi, on s'en parle. Aux États-Unis, ça progresse extrêmement bien. Ouais. Et ça lui donne l'occasion, en fait, d'annoncer quand même relativement souvent des bonnes nouvelles, dans le sens où on se rappelle qu'il avait fixé à la base l'échéancier du mois de juillet pour que la vaccination universelle soit disponible aux États-Unis. On a devancé ça après coup au 31 mai, après au 1er mai. Et là, hier, il est allé dire qu'il visait que d'ici la fin du mois d'avril, on ait 200 millions de doses qui soient administrées alors que son objectif initial était de 100. Fait que ça a commencé sur une bonne note. Ce qui, par contre, est devenu assez remarquable, c'est que une fois que ça a été dit, il n'y a plus du tout été question de la pandémie. En fait, sur un point de presse qui a duré plus qu'une heure, il n'y a pas eu une seule question de tous les journalistes présents qui touchaient la COVID-19. Il y en a certains qui diraient que c'est une bonne chose en soi parce que ça montre que c'est peut-être moins une préoccupation, un problème qui va peut-être dans la bonne direction aux États-Unis. En même temps, ça a aussi donné lieu à des échanges pour le moins laborieux. Ouais. Laborieux. Je sais pas si vous l'avez vu, là, mais c'était pas toujours facile.
Je prends juste un pas de recul avant de tomber dans le vif, notamment des problèmes à la frontière, mais juste sur le délai que ça a pris avant d'avoir un premier point de presse où le président américain répond aux questions. Je suis un peu tombé des nues, voyons. Tu sais, comment tu peux être presque 60 jours à la tête du plus gros pays, d'un des plus gros pays du monde et ne pas répondre à aucune question? Je trouve ça bien surprenant. Et pourquoi?
Plus de 60 jours, en fait, quand tu regardes ça, ça faisait un petit peu plus que 2 mois. Fait que, effectivement, tu as absolument raison. On n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué en même temps, je te dirais, à disons-le très franchement, là, à un candidat qui gagne la Maison-Blanche en faisant presque pas campagne. Ouais. Tu sais, je veux dire, pour moi, le début de sa présidence est une suite un petit peu logique de sa campagne présidentielle. C'est-à-dire que à partir de mars 2020, évidemment qu'il y a eu la COVID-19 qui est venue tout bouleverser, mais la vérité crue, c'est que ça a quand même politiquement avantager Joe Biden de pouvoir, je vais pas dire se cacher dans son sous-sol, là, mais disons, passer largement sous le radar. Et clairement, il y a un calcul qui semble avoir été fait à l'intérieur de la nouvelle Maison-Blanche, comme quoi, ben pourquoi sortir fréquemment pour donner des discours, pour répondre à des questions, quand ça marchait aussi bien que ça de garder un profil plus bas pendant la campagne. Mmh. Fait que t'as raison, c'est très inhabituel. Et là, il arrive après un peu plus de 2 mois. Et encore une fois, pour faire des liens avec la campagne, là, il y a eu certains moments qui nous rappelaient, disons, des échanges pénibles pendant la campagne électorale avec M. Biden, des moments en débat où il cafouillait, où il cherchait ses mots, où il avait presque l'air perdu. Hier, c'est pas arrivé une ou deux fois, là. C'est pas arrivé 55 fois non plus, mais c'est arrivé à répétition que clairement, il était sur une espèce d'air d'aller, puis en plein milieu d'une phrase, il se rendait compte que ça n'avait comme pas de bon sens ce qu'il était en train de dire, fait qu'il changeait à 180 degrés. Il y a eu des propos qui étaient honnêtement carrément insensés. Fait que oui, ça n'a pas été catastrophique, et je ne pense pas qu'on en fait un gros cas depuis hier, parce qu'en bonne partie, on s'est habitué à 4 ans, souvent de points de presse qui étaient complètement déjantés, pour pas dire maniaques, mais si on enlève Donald Trump, je pense que c'est très difficile pour la plupart des gens, là, parce qu'il est tellement rendu dans une espèce de référence automatique qu'on a. Mais si on essaie de faire l'exercice de se replonger à quoi ressemblait un point de presse d'un président américain avant Trump, tu regardes ce que Biden a offert hier comme prestation, je pense qu'il y a bien des gens qui auraient posé des questions. Puis j'ajoute ceci très rapidement avant qu'on rentre dans peut-être les sujets plus concrets. À plusieurs reprises hier, Biden a lu ses réponses, a lu tout au moins des parties de réponses. Puis j'ai vu des gens réagir à ça en disant, ouais, ben c'est normal de consulter des points, ou ça arrive des fois que des présidents qui consultent des statistiques avant de les donner. Il était pas question de ça, là. Pour quiconque qui a regardé vraiment, là, ce qui se passait hier, c'était comme quelqu'un qui lisait ce qu'on appelle des points de discussion, là, des talking points. Ouais, ouais. Presque comme un porte-parole. Je disais, crème, c'est le président des États-Unis dans son premier point de presse. Ça. Ça aurait dû soulever, je pense, des sérieuses questions.
Hey, écoute, on touche toutes sortes de sujets. En fait, j'ai-tu rêvé où Trump continue de dire ou a dit dans les dernières heures que finalement, ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier, là, c'était pas si pire que ça. Les gens sont entrés, ils sont sortis. J'ai-tu rêvé ça cette nuit ou j'ai lu ça sur Twitter ce matin? Hein?
Si t'as rêvé ça, c'est probablement un des pires cauchemars que t'aurais pu faire. Okay. Parce que malheureusement, c'est la réalité. En fait, il a dit plus que ça. Ah, c'est incroyable. Tu sais, je parle des problèmes de Biden hier. Mm. Je dis, tu compares ça à Trump. Trump, le soir même, tient des propos qui font complètement oublier, ne serait-ce que le moindre problème que M. Biden aurait pu avoir dans son point de presse. Écoute, Trump est allé dire à Fox hier soir que non seulement... il n'y avait pas eu une menace au Capitole. Ces gens-là qui sont entrés le 6 janvier posaient pas de menace, mais que ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient embrassé, ils avaient serré les officiers de police qui étaient là. Qu'on leur avait ouvert les portes, ils étaient entrés, puis après ils étaient sortis.
C'est incroyable.
Puis là, ce que je dis, c'est pas de l'hyperbole. Je suis pas en train de déformer ce que Trump a dit. Je veux pas sortir l'espèce d'expression qui a été ridiculisée depuis un an. Faites vos recherches, là. Mais faites vos recherches. Allez écouter l'intégrale de Trump hier. C'est disponible sur Internet. Ce sont exactement ses paroles. Puis, ce qui est peut-être le pire dans tout ça, c'est qu'à aucun point, aucun moment de l'entrevue, est-ce qu'il a été moindrement challengé par l'animatrice de Fox. Je veux dire, ça en dit quand même long.
Là. Ouais, tu dis, allez écouter ça, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est plus président des États-Unis. Fait que je peux décider que pour moi, c'est même pas d'intérêt de l'écouter.
Il y a encore une influence.
Que la mascarade a assez duré. Là.
Mais c'est-tu quoi, Joe? Ce point-là, c'est vraiment fascinant, très sérieusement, parce que je l'ai entendu à quelques reprises depuis le 20 janvier dernier. T'sais, pourquoi est-ce qu'on se soucierait de lui? En fait, pourquoi est-ce qu'on lui donnerait même de l'oxygène médiatique? Puis, c'est un point valable, puis je veux même pas dire que je suis en désaccord, parce qu'honnêtement, je suis même pas sûr où je loge personnellement là-dessus. Je peux dire très sincèrement, j'avais un petit peu ma claque là, d'en parler, fait que c'est pas comme si je m'ennuyais du bonhomme ou je m'ennuyais d'en parler. En même temps, ce qui est vrai, c'est qu'il est potentiellement plus qu'un ex-président. Il est peut-être aussi un futur candidat présidentiel. Ouais. C'est ça qu'il faut jamais perdre de vue. Puis, non seulement il est peut-être un futur candidat présidentiel, si, on est dans le monde du si, là, mais s'il en devient un pour 2024, il risque, en tout cas, si les choses continuent sur cette même lancée-là, là, d'être le favori, tout au moins à la ligne de départ, pour remporter l'investiture de son parti. Tu sais, fait que c'est, je suis pas sûr qu'on peut juste complètement le balayer du revers de la main puis dire, Ça donne absolument rien d'en parler parce qu'il demeure un facteur.
Je parlais plus sur une base individuelle. Là, que les gens, si vous n'avez marre de Trump, vous n'êtes pas obligé d'aller l'écouter. Là, comme
non,
il y a des animateurs, des agitateurs qu'on peut décider de juste plus écouter aussi quand ça nous fait mal en dedans. Là.
Vous pouvez retourner écouter Lady Gaga, effectivement.
C'est ça. Revenons à Joe Biden. C'est intéressant parce qu'il y a beau avoir un nouveau président, une nouvelle dynamique, il reste que les problèmes ne disparaissent pas du jour au lendemain. Là. Les problèmes à la frontière mexicaine, ça refait surface. Même, j'ai envie de dire presque plus que jamais. Et là, c'est la vice-présidente Kamala Harris qui vient à la rescousse.
Oui, bien, qui vient à la rescousse ou qui est dispatchée ou qui joue un petit peu au tampon. C'est tellement ingrat la job de vice-présidente dans ce cas-ci de vice-présidente. Tu sais, je repensais à ça quand j'ai vu ça cette semaine, puis j'avais des espèces de flashbacks. Bien, des flashbacks, c'est pas comme si je l'avais vécu. Là, je voulais vous citer des scènes des années 50, mais disons des références historiques. On peut remonter à Eisenhower lorsqu'il était président et que Nixon était son vice-président. Très souvent, c'était Nixon qui se faisait envoyer pour essuyer les coups politiques qui seraient peut-être venus à Eisenhower, c'est lui qui s'en était occupé. Très souvent dans l'histoire américaine, ça a été ça. Quand la Maison-Blanche voit qu'il y a quelque chose qui peut faire mal politiquement au président, souvent le vice-président va agir comme une espèce de tampon, encore une fois, par rapport à ça. Ouais. Pas plus tard que l'an dernier, qu'est-ce que la Maison-Blanche de Trump avait fait avec le coronavirus, rappelez-vous? On avait mis Mike Pence, le vice-président en charge du groupe de lutte.
Qu'est-ce qui se passe actuellement à la frontière mexicaine? Parce que ça, c'est un sujet qui traîne depuis longtemps. Ça a toujours été ou presque un problème. C'est quoi l'enjeu actuellement? Qu'est-ce qui se déroule là-bas présentement?
Ce qui se déroule, c'est une hausse absolument fulgurante du nombre de migrants qui essayent de se frayer un chemin à la frontière. Maintenant, tu as absolument raison, Jérôme, de dire que c'est pas nouveau. C'est-à-dire que c'est un problème qui est là depuis longtemps. C'est un problème qui est cyclique. Ça monte, ça redescend. Ça monte, ça redescend. Là où c'est vraiment en train de devenir très problématique, à la fois d'un point de vue humanitaire, d'un point de vue peut-être sécuritaire, et justement d'un point de vue politique pour la Maison-Blanche, c'est que la hausse qu'on est en train, ou la rehausse, peu importe, là, qu'on est en train d'observer, elle semble carrément vertigineuse. En fait, le secrétaire à la sécurité intérieure de M. Biden est allé déclarer il y a quelques jours qu'il s'attendait à la pire hausse depuis le début du siècle. Fait qu'est-ce qui se passe qui cause ça? Il faut réaliser d'abord et avant tout que c'est pas simplement une question d'immigration illégale. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont tentés de tout mettre ça dans ce même panier-là. C'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que oui, il y a une partie de ça, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens qui viennent, et pas seulement du Mexique, il y a ça aussi qui est clé, qui viennent pour clamer le statut de réfugié. Donc, tu as des personnes qui peuvent venir du Honduras, du Guatemala, du Venezuela, qui montent au nord. Donc, ils peuvent, dans certains cas, si on prend le Venezuela, c'est un pays d'Amérique du Sud, monte au nord en Amérique centrale, ça cause évidemment des problèmes.
C'est une bonne ride, mais ça se fait, c'est ça.
C'est ça. Ouais. Dis-toi ceci, c'est pas une ride de plaisir. Là. Ils partent pas parce que ça leur tente. Ce sont très souvent des gens qui vivent des crises carrément humanitaires, des crises sociales, des crises politiques dans leur pays. Donc, sentent le besoin de quitter vers des terres peut-être plus paisibles, on va le dire comme ça. Donc, monte vers le nord, éventuellement, pour des raisons géographiques évidentes, arrive au Mexique et là, se retrouve éventuellement à la frontière mexicano-américaine. Donc, c'est ça qu'on a. Et juste pour vous donner, tu sais, je vous parle de nombres en hausse vertigineuse. Un exemple dont on parle de plus en plus, c'est dans le comté d'Hidalgo. Ça, c'est un petit comté dans le sud extrême du Texas. Ça donne sur la frontière, évidemment. Il y a un centre où il y aurait, je vais le dire de façon très prudente, là, il y aurait un centre de détention pour les migrants qui sont appréhendés à la frontière dans ce comté-là, avec une capacité d'à peu près 250 personnes, okay, capacité maximale, il y en aurait actuellement plus de 3 000.
Ouais.
Imaginez, là, juste d'un point de vue, encore une fois, humanitaire, et ce serait bourré de mineurs. Fait que c'est ça qu'on a comme problématique présentement.
Raphaël, toujours un plaisir. On te souhaite un excellent week-end, puis on se reparle certainement la semaine prochaine, mon ami.
Good, bonne fin de semaine. Bye.
Salut!
Raphaël Jacob, notre expert en politique américaine, donc de la chaire Raoul Dandurand aussi. Ça, c'est un problème qui est pas évident à gérer, parce que des fois, les démocrates vont, tu sais, ils vont essayer de vouloir jouer la carte un peu de nous autres. On est un petit peu plus accueillants, on a plus de cœur, nous autres. Alors que c'est un problème majeur là, d'accueillir du monde de plus aux États-Unis. Ça crée toutes sortes de tensions aussi. T'sais, on a bien beau vouloir être accueillant, mais la tension à la frontière, c'est pas parce que t'amènes un démocrate puis que Trump est plus là que ça disparaît loin de là.
Ouais, tu sais, ça revient à un des problèmes, je pense, que Donald Trump a toujours eu. C'est-à-dire que les points qu'il soulevait à la base étaient très souvent loin d'être impertinent.
C'est ça, c'était pas tout
impertinent. C'était dans la façon de faire, dans la façon de gérer le monde.
Le Mexique va le payer, mais le gros discours, alors que de vouloir gérer cette frontière-là, c'est tout à fait légitime. Là. Puis il y en avait des parties de mur, je l'ai traversé il y a quelques années pour aller faire un tour à Tijuana, mais j'ai pas le temps de vous raconter c'est quoi Tijuana.
Un jour, tu vas-tu écrire un livre sur tout ce que tu as fait comme voyage?
Peut-être.
Jérôme, le globe trotter.
J'ai hâte. J'ai très, très hâte, sérieusement.
De
repartir. Ça fait du bien.
T'appelleras ça Journée d'Amérique.
Journée d'Amérique? Je sais pas. Ou pas. Peut-être pas non plus, Nico. Hey, continuez de nous écrire. Vous êtes encore très nombreux ce matin. 25-226, c'est notre numéro de texto pour nous joindre. 1-877-670-9330. Attention, en fin de semaine, vous allez dans les restos, vous risquez de voir des policiers. Hein, dans certaines régions du Québec, je disais ça ce matin dans les journaux. À Québec, entre autres, la police a l'intention d'aller faire un tour pour aller voir observer dans les restaurants si la distanciation est appliquée, si il y a trop de monde à l'intérieur. Donc, bon week-end, mais soyez prudents avec les mesures qui sont encore, bien sûr, en vigueur. Presque 10h57. Vous écoutez Trudeau-Landry, la suite. Après ces quelques messages.